On va lire ensemble un texte dans Matthieu, chapitre 1, et versets 18 à 25. Matthieu 1, nous lisons ici, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. » Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci pour ce culte, pour ce moment entre frères et sœurs, et aussi de revoir tous ceux que nous aimons, qui reviennent un peu de partout pour les fêtes. Seigneur, veuille bénir ces instants ensemble. Seigneur, ta parole est notre pain, notre nourriture, c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle qui nous rapproche de toi, c'est elle qui nous donne l'énergie pour vivre pour toi. Et Seigneur, bénis-la ce matin. Aide-moi, Seigneur, garde ma voix et inspire-moi, conduis-moi, libère-moi et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde deux noms de notre Seigneur bien-aimé. Donc on a lu, hein, l'ange a prévenu Joseph en songe, il lui a dit verset 21, « Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus. C'est un beau nom, c'est le plus beau des noms, hein. Parfois on le chante, hein. On dit Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, hein. Vous connaissez ce cantique. Alors qu'il y a beaucoup dans la rue, à l'extérieur, vous leur donnez un traité avec le nom de Jésus, mais c'est immédiat, hein. Ils jettent, il y a une aversion en fait, hein. Le nom de Jésus, je sais pas, ils le détestent quelque part, hein. Tout de suite, hop, on jette, hein. Et pour nous, eh bien, c'est le plus beau nom. C'est celui qu'on aime. Et en fait, le nom de Jésus, soit on l'aime, soit on le rejette, en fait. Hein. Et le nom d'une personne, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand on nomme des enfants, souvent, on cherche ce qui est joli, ce qui sonne bien, c'est la sonorité qui nous intéresse, hein, dans la prononciation. Il faut que ce soit élégant, harmonieux, que ça chante, que ça aille bien avec le nom de famille aussi. Par exemple, on n'aurait jamais nommé notre fille Anne, quoique c'est un joli prénom, mais Anne Sauvage, c'est pas bon du tout, hein. Donc, hors de question, on a évincé ça. Fanette et François, donc ont bien réfléchi au prénom de leur enfant aussi, c'était important pour eux, hein. Après, parfois, c'est difficile quand il y a une double culture. Moi, je me souviens avec Kimberly, quand on a nommé nos enfants, je disais un prénom à Kimberly, elle me dit « Ah non, pas ça, en anglais, c'est horrible. » Donc, en fait, c'est pas possible. Des fois, eh bien, il faut aussi chercher pour que ça aille bien aux deux. Maintenant, si on remonte au temps biblique, ce qui comptait dans le choix d'un prénom, c'était le sens. C'était ça qui était vraiment important. Chaque prénom avait un sens, une signification. Alors, ça peut donner parfois des prononciations un peu bizarres, surtout aujourd'hui, hein, quand on regarde les prénoms bibliques. Hein, personne n'appellerait aujourd'hui ses enfants Tryphène et Tryphose, parce que ça fait un peu penser à Triphasé, hein, donc on va éviter ça. Hein. Mais en regardant le sens, eh bien, on peut comprendre que c'était vraiment, waouh, des prénoms superbes, c'était magnifique. Hein. Tryphène, ça veut dire délicieux. Voilà. Oh. Vous appelez votre enfant délicieux. Des fois, c'est vrai, hein, les enfants, ils sont délicieux. Quand on les regarde, là, hein, on les mangerait. Et puis, Tryphose, ça veut dire qui brille triplement. C'est un beau prénom aussi, ça. Hein? Briller, briller triplement. Je sais qu'en Chine, tous les noms ont aussi un sens. À chaque fois, c'est pas juste un nom comme ça qui sonne bien. Dans la Bible, il n'y a aucun nom qui est sans signification. Chaque nom, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, à chaque fois, il y avait un sens. Et on voit que très souvent, des hommes même avaient deux prénoms ou deux noms. Leur nom avant la conversion, pour le Nouveau Testament, et puis leur nom après. Parfois, dans l'Ancien Testament, c'est leur nom avant de rencontrer Dieu et leur nom après avoir rencontré Dieu. Par exemple, Saul, qui signifie « demander », est devenu Paul, qui signifie « petit ». Alors, peut-être que les parents, ils avaient demandé, et Dieu leur avait donné. Alors, ils l'ont appelé Saul. Et puis, Saul, qui était dominateur dans son pharisaïsme, qui s'élevait au-dessus des autres, une fois converti, Dieu lui dit « maintenant, ça sera Paul, tu seras petit, et tu auras l'humilité ». Il va devenir un disciple doux et humble, alors qu'avant, il voulait imposer la religion par la force. Et quand on regarde Jésus, notre Seigneur, on voit qu'il n'a pas hérité des noms au hasard. Chacun de ces noms avait une signification. D'ailleurs, Dieu n'a même pas laissé Joseph et Marie choisir le nom. Ils lui ont dit, par l'ange, il leur a dit comment il s'appellerait Jésus. Et c'est à dessein qu'ils l'ont nommé Jésus, puisque Jésus, ça signifie « salut de l'Éternel » ou « l'Éternel sauve ». Donc, ça, c'est la même racine que l'hébreu, Joshua en hébreu ou Josué en français, toujours la même racine. Dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs sont sortis de l'Égypte, après l'esclavage, sous la conduite de Moïse, ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Et à l'issue des 40 années, c'est Josué qui les a conduits dans la conquête du pays de Canaan. Et Josué, on peut dire que c'était un vaillant héros, qui n'avait pas peur d'aller combattre les peuplades. C'était un guerrier, vraiment de l'Éternel. Et c'était le chef qu'il leur fallait pour rentrer en Canaan. Et en le suivant, c'est tout Israël qui s'est emparé du pays de Canaan. Petit à petit, ils ont taillé en pièces toutes ces peuplades qui étaient idolâtres, qui étaient débauchées, perverties, qui habitaient en Canaan. Et Josué portait bien son nom. Par lui, on peut dire, l'Éternel a sauvé le peuple. Il a sauvé le peuple d'Israël. Josué était le salut de l'Éternel. Mais toute cette histoire, c'est qu'une préfiguration de la vie chrétienne. 1400 ans plus tard, un enfant né dans une étable à Bethléem, et son nom, c'est Jésus, c'est Joshua, c'est pareil, salut de l'Éternel, ou l'Éternel sauve. L'ange a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Autrefois, par Josué, Dieu a sauvé son peuple des nations ennemies, et maintenant, par Jésus, Dieu sauve son peuple de ses péchés. Et donc, Jésus, c'est notre chef. C'est celui qu'il faut suivre pour avoir une pleine, une entière délivrance de tous nos péchés. Comme Josué était là pour mener à la victoire, Jésus nous a été donné pour nous mener, nous aussi, chacun dans nos vies, à la victoire. Il veut que nous triomphions. Et c'est vraiment intéressant de faire le parallèle entre la vie chrétienne et puis la conquête du pays de Canaan par Josué. Parce que ça nous enseigne aussi comment Dieu s'y prend et quelle attitude nous devons avoir pour vaincre finalement tous nos péchés dans notre vie. Alors j'aimerais prendre Deutéronome 7, on va lire un passage, versets 1 et 2. Deutéronome 7 et versets 1 et 2. Nous lisons ici, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. » tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Et là, quand vous prenez ce passage, eh ben, vous pouvez remplacer toutes ces nations par vos péchés. Alors, je ne sais pas, je connais pas vos péchés, hein. Seul Dieu le sait, et vous-même. Mais essayez de le faire. On pourrait dire, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de péchés, l'orgueil, la méchanceté, l'ivrognerie, la jalousie, la convoitise, le tabac, la grossièreté, la colère, ces péchés plus puissants que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec eux, tu ne leur feras point grâce. Et quand Israël avait battu une nation, eh bien il l'a dévouée par interdit. Ça signifie qu'elle était interdite pour le peuple et elle était maintenant dévouée à Dieu. Dieu réclamait tout. Il réclamait les vies, il réclamait les biens de la nation tout entière. Et Israël n'avait rien le droit de garder pour eux-mêmes, tout était dévoué, offert au Seigneur, sacrifié à Dieu. Et ça, c'est l'attitude que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis de tous ces péchés dont il veut nous délivrer, hein, ou dont il a déjà commencé à nous délivrer. Ils sont d'ores et déjà dévoués par interdit. Voilà. Il est dit, tu ne traiteras point d'alliance avec elle, point d'alliance avec eux, avec ses péchés. Et il faut qu'il y ait une séparation qui nous en... Voilà, parce que maintenant on vit pour Dieu et on ne veut plus vivre dans toutes ces choses. Hein. Il n'y a plus d'alliances qui sont faites avec eux. Vous savez, parfois, on se permet un petit écart. On se dit, oh bah, c'est pour une fois. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. Hein. Et on traite alliance, on renouvelle une alliance finalement avec quelque chose qui nous fait du mal. Allez, je me permets de le faire, c'est pas grave, hein, c'est seulement dans cette circonstance, seulement cette quantité. Mais par exemple, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, mais c'est même pas un petit verre comme ça, hein, c'est rien. Parce que sinon, après, c'est la glissade. Hein, c'est la glissade. Ou bien on se dit, c'est bon, je suis assez fort, je vais réussir à me maîtriser. Et puis, bof. Voilà, on permet ça et... Ou bien on va légitimer son péché, pardon, on justifie. C'est vrai que c'est un péché, mais bon, quand même, il y a pire que moi. C'est pas grave quand même. Hein. Puis bon, dites-moi où la Bible condamne ça. C'est pas marqué, hein, noir sur blanc. Et hop, on se laisse aller. Mais si Dieu nous dit que c'est pas bon pour nous, bah c'est pas bon pour nous, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de discuter. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Tu dévoueras par interdit. Tu rejettes. Dieu a dit aux Israélites concernant les nations, tu ne leur feras point grâce. Pas de grâce pour le péché. Pas d'exception. Jamais d'exception. Le péché, c'est le péché et on le considère comme tel jusqu'au bout. Alors Josué, c'était le chef... Hein, qui allait mener toute la nation vers la délivrance, vers un pays de liberté, un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel, mais personne ne devait transgresser la règle, toutes les nations étrangères devaient être exterminées. Alors c'est vrai que quand on n'est pas très habitué à toute la Bible et qu'on lit que voilà, il fallait exterminer tout le monde, ça peut sembler très dur. Hein. Mais il y a un passage et d'autres passages dans les Écritures qui disent ce que faisaient ces nations. Hein. Ils faisaient des choses horribles et c'était des péchés très graves. Et aux yeux de Dieu, ben Dieu juge tout le monde. Hein. Il a jugé son peuple d'Israël quand il péchait, mais il jugeait les nations qui étaient loin de lui. Chaque fois qu'ils atteignaient un stade qui dépassait les bornes, eh bien, Dieu faisait tomber sa colère sur eux. Et Dieu avait choisi Israël pour venir châtier ces nations qui sacrifiaient des enfants par le feu, ou voilà, qui faisaient toutes sortes de choses qui étaient innommables. Et il ne devait pas en laisser une seule, toutes les exterminer. Et ces nations sont des images de nos péchés. On ne doit pas en laisser un seul. C'est ça le but, en fait. C'est que Dieu veut nous délivrer de tous nos péchés. On doit les exterminer les uns après les autres, en suivant notre Josué Jésus. Quand le peuple laissait une nation et ou bien ne la dévouait pas par interdit, eh bien, ça se retournait contre eux. C'était la défaite, c'était l'échec. Le péché est puissant et pour le vaincre, eh bien, il faut accepter de se consacrer entièrement et ne rien tolérer et se séparer de toutes ces choses qui viennent nous détruire. Il y a encore une leçon intéressante dans Deutéronome concernant la délivrance de nos péchés. Regardez Deutéronome 7 et verset 22. Nous lisons ici, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Pardon. Et du temps de Josué, c'est certain que ce n'était pas un temps comme le nôtre. Et s'il y avait une guerre, eh bien, on ne prenait pas le temps d'enterrer les morts. Donc, parfois, c'était des milliers et des milliers et des milliers de morts qui jonchaient le pays, qui jonchaient les champs. Et tout cela, eh bien, ça entraîne quoi ? Des épidémies, des maladies, des nuisibles, des rats, etc., des bêtes. Hein. Et donc, Dieu a dit, tu les extermineras petit à petit, petit à petit. Et c'est un enseignement aussi pour nous. Dieu ne chasse pas tous nos péchés en une seule fois. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Hein. Combien, parfois on le croit. Hein. Quand on se convertit, on commence à voler là, et on se dit, le bonheur. Et puis après on redescend, hein, et puis on se dit, ah non, ce n'est pas ça en fait. Hein. J'ai quelque chose à apprendre. Personne ici ne peut dire qu'il est parfait maintenant et qu'il n'a plus jamais aucun problème avec le péché. Et donc des nations à combattre, eh bien on en a encore, hein, mais ce que Dieu nous dit, c'est que Jésus, notre chef, va nous mener à les vaincre hein, petit à petit et les uns après les autres. Hein, il va nous donner la victoire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Quand on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, hein, « Car celui qui vous a appelé est fidèle ». Et c'est lui qui le fera. C'est son œuvre. La sanctification, c'est son œuvre. Il vous y conduit, c'est son œuvre. Mais l'œuvre, elle se fait petit à petit. Dieu nous montre un péché, il met l'accent sur ça, et c'est celui-là qu'il faut abandonner, hein, s'en détourner, c'est le moment. Dieu veut nous donner la victoire sur celui-là. Et puis on avance par la foi, hein, l'Éternel est notre salut. On dévoue par interdit, ça veut dire ben, c'est terminé, hein, on ne fait plus d'alliance avec lui, plus de grâce, puis après on passe à autre chose. Hein. On avance, hein, et puis c'est un autre péché, et puis petit à petit, il nous délivre comme ça, et puis il affine. Au départ, c'est ce qui est grossier, énorme, et puis après, eh bien, on va dans les choses qui sont moins visibles pour nous conduire vers une sainteté qui est plus parfaite, hein, sans ombre, mais l'œuvre se fait petit à petit. Et vous savez, le fait que ça se fait petit à petit dans nos vies, eh bien, ça nous apprend, nous aussi, à user de grâce vis-à-vis de nos frères et sœurs. Dieu le fait petit à petit pour nous, alors il nous appelle à être gracieux vis-à-vis des autres. Imaginez si Dieu vous montre, quand vous vous convertissez, tous vos péchés d'un seul coup. Et puis il vous dit, ben voilà, tu vas devoir t'attaquer à ça. Et c'est... Et vous effondrez, et puis là, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Dieu ne fait pas ça. Hein, quand il nous sauve, eh bien, au départ, il nous fait voler. On a l'impression qu'on est super fort. Et puis après, petit à petit, on voit que ça revient. Et puis, on n'a même pas conscience de tout. Hein. Et puis, ben, on commence à mettre de côté un péché, puis un autre. Et puis, on avance. Et puis, vous savez, vous avez 20 ans, vous avez 40 ans, vous avez 60 ans de vie chrétienne, puis vous voyez que c'est pas fini, quoi. Hein. Il y en a toujours, mais on va un peu plus loin. On va, voilà, dans les petites choses qui sont moins visibles. Et ça, c'est la réalité. Dieu nous délivre petit à petit. Et il veut aussi agir de la même manière vis-à-vis de nos frères et sœurs. Quand vous imaginez que Dieu supporte nos péchés, il supporte nos péchés, c'est fou, quoi. Il est saint, il nous donne le Saint-Esprit, et parfois... Et ben voilà, il va supporter un péché et le chrétien n'en a même pas conscience. Et puis c'est plus tard où Dieu va lui dire, bon maintenant ça fait 10 ans que tu le fais, c'est fini, terminé. Donc Dieu supporte nos péchés. Est-ce que nous, on ne devrait pas aussi supporter parfois une chose qu'on voit chez quelqu'un qui nous insupporte parce que nous, on ne le fait pas? Mais Dieu nous dit, ben, usez de grâce. Hein. Usons de grâce vis-à-vis de nos frères et sœurs comme Dieu use de grâce vis-à-vis de nous. Nous lisons, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est une prophétie que l'ange a ici dite à Joseph dans son songe. Réellement, Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés. Et il nous transforme par sa puissance. Et c'est incroyable de voir comment Dieu nous délivre et nous sauve de nos péchés. Tout chrétien qui a des années de vie chrétienne, peut-être vous pourriez le dire, hein, je ne sais pas, mais... Quand vous avez passé un certain nombre d'années, à un moment, vous dites, mais en fait, avant, je faisais ça, et je ne le fais même plus. Et c'est tombé, en fait, ça a disparu. C'est vrai, hein, on se retourne et on se dit, ah ben oui, je faisais ça, je m'en rappelle. Terminé, j'ai même pas envie. Et c'est comme ça, tout au long de la vie, hein, il y a des choses qui disparaissent, hein, parce que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Et il veut le faire pour tous nos péchés. Jésus est notre sauveur, il est l'éternel, notre salut. Mais il faut avancer derrière lui. Alors, je ne sais pas ce qui se serait passé si plusieurs Israélites, vous savez, quand ils sont allés en Canaan, avaient décidé de partir tout seuls, sans suivre leur Josué, hein, celui qui les conduisait. Probablement, ils auraient essuyé des défaites. Hein. Et nous, eh bien, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller vaincre nos péchés par nos propres forces. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas que nous fassions tous nos efforts. Non, c'est qu'on reste attaché à Jésus et qu'on suive Jésus et qu'on s'attache à Jésus. Hein? On lève les yeux vers le ciel, on s'attache à sa personne. L'important, c'est pas je recherche la sanctification et puis si je l'atteins, eh bien Dieu va être content et Dieu va me bénir. Non, c'est pas ça. C'est plutôt je m'attache à mon Dieu, je cherche Dieu et Dieu me donne la sanctification et la sainteté. Et j'en suis béni. Il y a un retour. Hein? Donc, je m'occupe de Dieu plutôt que de m'occuper de mes péchés. Alors, je les confesse. Je refuse. Je lutte. Hein? Mais je m'attache à Dieu et je demande à Dieu, aide-moi. C'est toi qui es ma force. Libère-moi. Et moi, je veux m'occuper de ta personne. C'est ça qui est important. Rester derrière notre chef, hein? C'est lui qui nous sauve de nos péchés. Ce n'est pas nous-mêmes. Et la victoire, elle est toujours dans la communion, dans la dépendance, dans l'intimité avec Jésus et dans la recherche des choses d'en haut. Voilà, si je m'attache aux choses d'en haut, eh bien petit à petit, les choses d'en bas commencent à se détacher de moi. Ce qui nous amène pardon, à un deuxième nom qui a été donné à notre Seigneur, Matthieu 1, verset 23. Et nous lisons, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils » et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». La signification nous est donnée ici, « Emmanuel, Dieu avec nous ». Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous. Ça, c'est un témoignage de sa divinité, en fait. Hein? Rien que son nom, c'est Dieu avec nous. Et ça nous donne beaucoup d'espérance et de force de savoir que Jésus et Dieu avec nous. Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux. Au départ, les apôtres et les disciples avaient Jésus avec eux, Jésus physiquement, qui était là au milieu d'eux. Hein. C'était merveilleux, ils mangeaient avec lui, marchaient avec lui, se déplaçaient, dormaient avec lui. Ils ne quittaient plus Dieu, en fait, et Dieu ne les quittait plus. C'était merveilleux. Jusqu'au moment de sa mort, et là, bah, c'est le choc. On imagine les pleurs, le cœur qui se déchire, Dieu nous quitte. Et puis la résurrection, non, Dieu est toujours là. Et alors là, c'est le bonheur. Et puis après, il y a l'ascension. Et là, vraiment, Jésus les quitte. Et là, il les quitte physiquement en disant, voilà, vous ne me reverrez plus avant la fin. Mais il leur dit, voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ils attendent donc ces 10 jours, la Pentecôte vient, et là c'est Jésus qui revient dans la personne du Saint-Esprit, qui vient habiter dans leur cœur. Et c'était quelque chose aussi de merveilleux, hein. Et Jésus Emmanuel est celui qui vient rentrer dans le cœur de celui qui croit, qui accepte, qui se donne à lui, hein. Quand l'ange a parlé à Joseph, il lui a dit que cette naissance serait l'accomplissement d'une prophétie. Regardez versets 22 et 23. Nous lisons « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et donc, la naissance de Jésus était une prophétie qui avait été donnée 700 ans auparavant. Mais c'est intéressant de prendre cette prophétie. À qui a-t-elle été donnée la première fois ? Pourquoi ? Parce qu'une prophétie dans la Bible, elle a parfois un double accomplissement, voire parfois triple, hein. On peut retrouver un accomplissement qui se réalise dans la suite. Alors, on peut prendre Ésaïe 7. On ne va pas tout lire. Mais Ésaïe 7, verset 2. Alors nous lisons verset 2, « On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi, Shéar Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. » Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. J'aimerais qu'on saute maintenant versets 11 à 16. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Et donc, Dieu voulait donner un signe à Akaz, au roi Akaz, pour qu'il ne soit plus dans la crainte, qu'il soit tranquille, hein, qu'il était avec lui, Dieu était avec lui, Dieu le délivrerait. Et le signe qu'il lui donne, il lui dit, ben voilà, la jeune femme lui donnera le nom à son fils d'Emmanuel. Hein. Et verset 16, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ben, avant un temps très court, avant qu'il sache rejeter le bien et le mal, ben, c'est peu de temps en fait, quelques années, hein, dans les premières années, eh bien, Akaz serait délivré des rois d'Israël et de Syrie, et ça serait la preuve que vraiment, je suis avec toi. Regarde. Voilà, quand tu entendras qu'un enfant nommé Emmanuel. Donc ça, c'est le premier accomplissement. Ça s'est vraiment réalisé comme ça. Et le mot hébreu a été traduit par vierge dans nos versions, en tout cas dans la version seconde. On peut traduire aussi par jeune fille, plus exactement la jeune fille. Et la jeune fille, c'est quoi ? Eh bien, c'est une jeune fille qui arrive en âge de se marier. Et pour Akaz, eh bien, il n'y avait rien de spécial, rien d'anormal. Voilà, simplement... Une jeune femme, eh bien, allait enfanter un enfant qu'elle allait nommer Emmanuel. Et il aurait la délivrance avant que l'enfant ait 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Simplement, c'était ça. Et il ne voyait pas la prophétie qui était cachée et qui était derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez l'évangile de Matthieu et que vous lisez la prophétie, la même prophétie. En fait, vous savez, les textes de l'Ancien Testament qui sont cités dans le Nouveau Testament, eh bien, sont des textes en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et alors, ils n'ont pas cité le texte hébreu, mais ils ont cité la Septante. La Septante qui est une traduction de l'hébreu en grec. Donc, l'Ancien Testament traduit en grec. Et la Septante est intéressante, parce que là, quand vous prenez le passage de la Septante, alors, juste pour vous dire, Jésus a cité... la Septante. Pour ceux qui disent « Ah oui, mais non, c'est mieux le texte hébreu. » Jésus a cité la Septante. Donc, c'est quand même intéressant. Et on lit ici que le mot « vierge » ou « jeune femme » en grec, il est sans ambiguïté. Pourquoi ? Parce que c'est « parthénos ». Et « parthénos », eh bien, c'est la jeune fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Voilà. Donc, c'est la vierge. C'est imparable. Et donc, il y avait un double accomplissement. Un pour Akaz, et puis ensuite, un pour nous, en fait. C'était caché. Et Dieu fut avec Akaz, et il le délivra des armées de la Syrie et d'Israël. Et de la même manière, Dieu est maintenant avec nous pour nous délivrer de nos péchés. Il est notre Jésus Emmanuel. Jésus est notre Jésus Emmanuel. C'est incroyable quand une personne jette un traité. Elle est en train, parce qu'elle voit le nom de Jésus, elle est en train de rejeter le salut de l'Éternel. Elle rejette le salut, en fait. Alors, heureusement, Dieu est plein de grâce. Il réitère, il rappelle dans sa bonté. Mais, si seulement elle savait combien ce nom est béni, Dieu en a fait un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom béni éternellement. C'est ce que nous lisons dans Philippiens 2, versets 9 à 11, et on peut prendre ce dernier passage, Philippiens 2, versets 9 à 11. Nous lisons, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, le beau nom de Jésus sera un jour prononcé, et c'est toute la création, les anges y compris, les choses dans le ciel et les choses sur cette terre et plus bas que la terre, et tous, même les rebelles, eh bien se prosterneront devant le nom de Jésus. C'est vraiment le plus beau nom. Et c'est le nom qu'il faut accepter, qu'il faut recevoir. Jésus, celui qui sauve de nos péchés. Et ensuite, eh bien, on accepte à Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que c'est dans cet ordre-là. D'abord, j'accepte Jésus qui me sauve de mes péchés. Et alors, je goûte à Dieu qui vient habiter dans mon cœur. Dieu avec moi. Jésus, Emmanuel, c'est le plus beau nom.